toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
C'est une légende du cinéma américain dont le dernier film en date et possiblement son ultime comme réalisateur vient de sortir en salle, Clint Eastwood. À l'occasion de la sortie de Juré numéro 2, nous vous proposons la rediffusion de l'émission spéciale consacrée à l'acteur et réalisateur de 94 ans, une émission diffusée en décembre 2020. Prononcer son nom, c'est d'abord dessiner une silhouette, haute taille, 1m93, ceinturon oblique, chapeau, poncho et cigarillo. Ou alors costume gris, sourcils froncés et revolver Smith & Wesson, modèle 29, calibre 44 Magnum. Vous aurez sans doute reconnu Clint Eastwood, ou plutôt ses deux plus fameux avatars dans les westerns de Sergio Leone ou la série des films noirs de l'inspecteur Harry. Mais Clint Eastwood a plus de 90 ans, apparaît dans plus de 60 films, dont de nombreux qu'il signe également comme réalisateur. Warner Bros. Vient de sortir le coffret ultime pour tous les cinéphiles fans d'Eastwood, 68 documents, tous ses films depuis Lafayette Escadrille en 1958 jusqu'au cas Richard Jewell sorti en 2019, une somme. Une intégrale dont nous parle le critique Samuel Blumenfeld qui signe le livret de ce coffret. Bonjour.
Bonjour.
Et Éric Libiot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez officié à Première, à l'Express, et vous venez de faire paraître Clint et moi aux éditions Jean-Claude Lattès.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Et comme le critique de cinéma peut arriver désarmé aux interviews, il creuse souvent face à Clint Eastwood. C'est ainsi que débute votre autobiographie de critique cinéphile, Éric Libiot, par le récit de votre première rencontre avec le grand Clint. Et vous n'en avez pas tiré gloire.
Non, mais avec le recul, ça se passe plutôt bien. Et puis en plus, je pense que c'est assez symbolique peut-être que du rapport que j'avais avec lui ou avec le cinéma. C'est-à-dire, je vis le cinéma et l'admiration que j'ai pour Eastwood dans un rapport assez organique, assez émotionnel. Et c'est vrai que c'est un metteur en scène que j'admirais depuis toujours, que j'admire toujours aujourd'hui. Et j'avais tellement envie de le rencontrer que je me suis complètement planté, quoi. Après, c'est pas quelqu'un de très facile au premier abord.
Il est impressionnant
Il le devient très vite parce que c'est quelqu'un de très fidèle. Hein. On remarque tous ses films, il y a toujours les mêmes techniciens, parfois les mêmes acteurs, mais le même musicien, le même monteur et le même chef-op, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très fidèle. Mais au début, c'est pas facile de le prendre. Il est à son image, assez taiseux, parfois un peu ironique, voilà. Et puis, au fur et à mesure des rencontres que j'ai eues et que Samuel a dû avoir aussi, il se livre un peu. Les rapports sont plus amicaux, plus chaleureux, et ça ne fait que renforcer l'admiration face à un des plus grands cinéastes actuels, sans aucun doute.
Et vous, Samuel, vous l'avez rencontré ?
À de multiples reprises, en France, aux États-Unis, c'est-à-dire dans ses bureaux à la Warner à Los Angeles, mais également chez lui à Carmel, où il est propriétaire d'un hôtel, le Mission Ranch Hotel, qui en fait c'est là qu'il organise ses rendez-vous et également c'est là que se déroule aussi une partie de sa vie sociale. Il y a deux choses qui me frappent chez Eastwood, justement, dans le contact. La première chose, c'est que à chaque fois que je le vois, je pense que ce sera la même chose pour Eric, on constate immédiatement la différence entre une vedette et une star de cinéma. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive, et vous avez beau bien le connaître, l'avoir rencontré à de multiples reprises, avoir installé une relative familiarité, à chaque fois qu'il arrive, on a l'impression qu'il vient d'ailleurs. Parce que tout simplement, il remplit l'espace comme très peu d'autres acteurs et actrices le remplissent. Ça s'appelle une star de cinéma. C'est extrêmement rare de nos jours. C'est véritablement une espèce en voie de disparition. Et on a eu cette chance-là, moi, Eric, d'autres, d'avoir côtoyé cette espèce qui semble disparaître. La deuxième chose, c'est que chez Eastwood, c'est que c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un de réservé. Ce n'est pas quelqu'un d'extraverti. Et donc, parce qu'il a justement ce tempérament timide, réservé, sur le qui-vive, ayant besoin d'évaluer son interlocuteur, eh bien, il faut du temps pour pouvoir installer justement cette familiarité, cette connaissance, une habitude. Et c'est assez précieux. C'était très, très, très appréciable. Cette timidité était très appréciable parce qu'en fait, lorsque vous établissez un contact avec lui, ça a véritablement de la valeur. Et c'est sans doute ce qui fait qu'Eric peut écrire son livre, peut écrire ce livre-là, parce que justement, le contact qu'a eu Eric avec Eastwood, eh bien, il a une valeur. Ce n'est pas fin.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais pour renchérir ce que dit Samuel, plus que la star, pour moi, c'est une mythologie en marche.
C'est une légende, non ?
C'est une légende, c'est une mythologie, c'est-à-dire qu'il y a une incarnation du rapport qu'on peut avoir au cinéma, du cinéma lui-même déjà, depuis quand même 50, 60, 70 ans. Donc à la fois le cinéma classique, le cinéma moderne des années 70, le cinéma des années 90-2000. Donc il a quand même tout traversé. Et il est resté. Pour à chaque fois que je le vois, ça me touche parce que c'est aussi tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire cette mythologie, cet imaginaire comme ça qu'on a trimballé avec soi devant tant de films, pas forcément uniquement les ceux de Eastwood d'ailleurs, mais ce rapport à l'image, à l'incarnation, à la star, à l'identification qu'on peut avoir avec Eastwood. Et c'est vrai que ce paradoxe entre la représentation d'une légende et effectivement la timidité, le côté très artisan de Eastwood, parce que c'est un artisan, il le dit, ça se confirme quand on voit comment il fabrique ses films, c'est pas Scorsese, quoi. C'est quelqu'un qui prend le cinéma comme « moi je raconte des histoires, donc je fais le film et puis on verra bien ». C'est un peu ça. Alors, des fois, faut un peu corriger, parce que je pense qu'il n'est pas dupe non plus de l'image qu'il a et du travail qu'il fait et de l'importance qu'il peut avoir dans le cinéma. Mais le côté artisanal et très timide et très respectueux des gens et des choses est assez remarquable dans ce milieu qui parfois se veut un peu ébouriffant et un peu comme ça se mettre en avant.
Alors, pour interviewer Eastwood, ou en tout cas pour avoir des entretiens de qualité, il faut avoir établi cette relation de confiance ou le connaître depuis longtemps. En 2017, au Festival de Cannes, c'est au critique américain Kenneth Turan qu'il se confiait dans le cadre de la masterclass.
Series in the early 60s, but when Sergio was a very interesting character. He had a different way of looking at the size and scope of films, and I learned a lot from him. Don Siegel was extremely efficient and put together. You know, he was faster than anybody I've ever seen.
Wow!
But it's because he thought faster. He didn't slough the shots, but he just his mind worked quickly. So they were my mentors.
Voilà, ça c'est Clint Eastwood qui parle de ses mentors. Il a cité Sergio Leone, il a cité Don Siegel, le réalisateur du premier Inspecteur Harry. Ensuite, il parle même des réalisateurs de télévision. Lui qui a débuté, alors vous le rappelez dans le livret du coffret DVD, Samuel Blumenfeld, il a débuté au début des années 60 dans un feuilleton télévisé, Rawhide.
Absolument. Alors il a débuté, il serait plus juste de dire qu'en fait qu'auparavant, il a tenu des rôles de figuration dans plusieurs productions Universal, parce qu'en fait il avait été signé par Universal. Les années 50 étaient encore une époque où les acteurs étaient sous contrat avec les studios, sauf qu'Universal savait pas vraiment quoi faire d'Eastwood, et donc Eastwood est apparu dans des séries B, Tarantula, enfin des choses où on l'aperçoit à peine. Rawhide, en fait, c'est le moment où Eastwood en fait obtient un véritable rôle dans ce qui est en fait une série de westerns, qui est un western de transhumance, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une caravane qui se déplace d'un point à un autre, mais enfin bon, ce déplacement dure des années, quoi, en fonction des saisons de Rawhide. Et Rawhide aurait dû être en fait un enterrement de première classe pour Eastwood. Enfin, je veux dire, ça fait partie des mystères d'une carrière et de ses aléas. C'est que concrètement, nous ne devrions pas savoir qui est Eastwood. Il aurait dû rester véritablement limité à ce rôle dans Rawhide, et puis les choses se seraient arrêtées là. Elles ne se sont pas arrêtées là pour deux raisons. C'est que d'abord, il y a un projet chez Eastwood dès le départ, enfin, ou du moins très tôt, qui s'affirme très tôt, c'est-à-dire avant sa rencontre avec Léon, de devenir réalisateur. C'est-à-dire que sur Rawhide, il se renseigne auprès de l'équipe pour savoir comment ça marche.
Les gens.
Il regarde comment on fait. Et il dit même, attendez, j'aimerais bien mettre en scène, donner mon avis là-dessus, etc. Et on lui dit, dis-moi, tu es qui ? Puis surtout, il y a des règles syndicales, et donc les règles syndicales t'interdisent d'intervenir. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que sa rencontre avec Léon, elle est inopinée. C'est que Eastwood est le dernier de la liste. Ce rôle du cow-boy sans nom, il est proposé à plein de monde. Il est refusé par James Coburn, par Charles Bronson. Et Eastwood se dit, bon, bah, je vais prendre ça puisqu'on ne m'offre strictement rien d'autre. Et même si le film est une nullité absolue, au moins, j'aurais eu la chance d'aller en Europe avec mon épouse, parce qu'il n'était jamais allé en Europe. C'est bien ça. Enfin, les mythologies, Eric parlait à très juste titre de mythologie, mais enfin, les mythologies prennent leurs racines dans le quotidien et parfois chez des gens morts de faim.
Bah oui, ce qui est beau avec Eastwood, c'est que la mythologie se mêle au pragmatisme le plus total. Il était interdit de tourner un western aux États-Unis parce que justement les producteurs de Rawhide ne voulaient pas qu'on le confonde avec un autre personnage. Donc quand on lui a proposé un western en Italie, enfin en Espagne et en Italie, du coup il a sauté sur l'occasion. Et c'est vrai que ce disait Samuel, on le sait assez peu, mais Eastwood s'est intéressé très très tôt à la fabrication du cinéma. Par exemple, le metteur en scène James Fargo, avec qui il a tourné plus tard, était un des metteurs en scène, un des réalisateurs de Rawhide. Donc il a très vite sympathisé et ça l'intéressait très tôt. Don Siegel l'a aussi mis le pied à l'étrier. Donc il fouinait, il s'intéressait, il regardait la technique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un artisan au sens où il aime bien savoir comment ça se fabrique. Donc ça, il était curieux et puis il s'est dit qu'effectivement, pourquoi pas dire des choses en étant metteur en scène, parce que ça l'intéressait de raconter des histoires. Et puis c'est vrai qu'avec Sergio Leone, tout d'un coup, il a acquis une autre dimension, mais il n'a jamais perdu de vue que ce qui l'intéressait avant tout, c'est être metteur en scène et pouvoir jouer les personnages qu'il avait envie de jouer.
Sur, par exemple, le premier film qu'Eastwood tourne avec Siegel, avec Don Siegel, qui est véritablement son mentor. Il y a une influence de Leone sur Eastwood, mais on va dire que ces deux hommes-là avaient des rapports compliqués, voire même conflictuels. Avec Siegel, véritablement, on est dans une relation de maître à élève. On est véritablement dans l'équivalent d'un atelier de la Renaissance, quoi. Je veux dire, Eastwood a besoin d'un mentor et Siegel est très, très fier d'avoir ce fils spirituel à ses côtés. Et le premier film qu'Eastwood tourne avec Siegel, donc à la fin des années 60, pour ce qui est en fait sa quasi-arrivée dans le cinéma hollywoodien, parce qu'en fait, quand il retourne dans le cinéma hollywoodien, il est un quasi-inconnu. On ne sait pas tout à fait qui c'est. Et donc le premier film qui tourne ensemble, c'est Un shérif à New York. Et entre chaque prise, en fait, Eastwood reste sur le plateau. Il ne retourne pas dans sa caravane pour lire un livre ou passer des coups de téléphone. Il reste sur le plateau, ce qui est très inhabituel, pour voir comment travaille Siegel. Et d'ailleurs, le premier film que réalise Eastwood, qui est un court-métrage, c'est un court-métrage sur Don Siegel au travail. Donc Eastwood devient, la première fois qu'Eastwood devient réalisateur, c'est pour filmer un de ses futurs pères au travail. Ce n'est pas ordinaire.
Hé hey, toi, t'as pas compris que les promeneurs, on les a pas à la bonne. Où est ton mulet? En fuite, plus malin que toi le mulet.
Tiens oui, à propos, je voulais vous en parler. Imaginez-vous qu'il a pris la mouche.
Qui?
Eh ben le mulet. C'est drôle, mais il est un peu susceptible. Votre accueil l'a un peu énervé. Je lui ai pourtant dit qu'ici, c'était la coutume.
Hé hey, tu nous prends pour des bourriques?
Non, je me suis douté que vous plaisantiez, mais le mulet est délicat et il s'est offensé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses.
Ah, vous avez tort de rire.
Car mon mulet, lui, n'apprécie pas tellement. Tel que je le connais, il risque de croire que c'est lui qu'on se moque. Si vous pensez lui faire quelques excuses, vous vous en tirerez seulement avec quelques regrets dans la figure.
Un extrait en version française avec la voix de Jean-Claude Michel, hein, le traducteur de Clint Eastwood. Un extrait de Pour une poignée de dollars, donc le premier des westerns qu'il tourne sous la direction de Sergio Leone. Il reconnaît, écrivez-vous Samuel Blumenfeld, le canevas d'un film de samouraï de Kurosawa, Le garde du corps, en lisant le scénario.
Absolument.
Ça, c'est la légende
Non, c'est pas la légende. C'est enfin. Enfin, c'est pas la légende.
C'est ce qu'il dit.
Encore une fois, nous avons beau connaître Eastwood, enfin, je veux dire, du moins l'avoir rencontré à de nombreuses reprises, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Mais néanmoins, quand même, j'y crois. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, d'abord, pour une poignée de dollars, donc le premier western Leon Eastwood est un film qui est un plagiat de Yojimbo, le garde du corps de Kurosawa. Maintenant, quand je dis un plagiat, ce qui est intéressant, c'est effectivement un film qui est plan pour plan, repris au film de Kurosawa.
Donc c'est pas uniquement le scénario, donc carrément la structure
vraiment,
des plans.
Plan pour plan. Alors d'abord, c'est pas à la portée de tout le monde de reprendre plan pour plan un film de Kurosawa. Et en même temps, quand vous voyez un film à la suite de l'autre, vous voyez bien que l'un dérive de l'autre, et pourtant ce ne sont pas les mêmes films. Donc comme quoi, c'est pas à la portée de tout le monde. On va dire tout simplement, Léon recherche son style. Et bien, comme toute personne qui recherche son style, il copie d'abord et ensuite, il le trouve. Et dans le cas de Léon, c'est le cas de le dire, il l'a vraiment trouvé. Maintenant, Eastwood raconte que lorsqu'il lit le scénario de Pour une poignée de dollars, qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, qui s'appelle L'étranger magnifique, enfin je veux dire un très mauvais titre, il dit avoir reconnu le garde du corps de Kurosawa qu'il avait vu dans une salle de cinéma à San Francisco. C'est ce que dit Eastwood, mais en même temps, ce que ça nous apprend, au minimum, c'est qu'Eastwood a toujours été quelqu'un de cinéphile et a toujours été quelqu'un possédant une très très grande conscience de ce qu'était l'histoire du cinéma. Très peu d'acteurs, en fait, et très peu de futurs stars ont véritablement cette conscience. Et c'est typiquement le comportement de quelqu'un qui va devenir un réalisateur, quand même.
Éric Ribio, vous mettez en doute dans votre livre Clint et moi, cette légende.
Je m'amuse à penser que c'est de la mythologie. Je suis assez d'accord avec Samuel comme quoi Eastwood, c'est un vrai cinéphile. Ça, c'est absolument certain. Il a notamment vu tout le cinéma noir classique américain, le film noir américain, Walsh, Houston, etc. Ça, c'est absolument certain. Non, c'est-à-dire que je renverse l'affaire en disant que Sergio Leone, qui lui était aussi un très très grand cinéphile, est aussi un homme de théâtre. Parce que le scénario de Kurosawa était adapté, enfin c'est une espèce de démarquage d'une pièce de Goldoni, donc dramaturge italien, et on sait que Léon était très très fan de théâtre, donc forcément il connaissait Goldoni, maître et ses deux valets, donc j'imagine que sur le plateau de tournage, Léon en a parlé à Eastwood, parce que encore une fois Eastwood est un type qui s'intéresse à peu près à tout, à la culture et tout ça. Alors savoir est-ce que Eastwood savait déjà que c'était, moi j'aime bien me dire que à un moment donné, le cinéma mélange tout ça, quoi. Le pragmatisme, la mythologie, la légende, hein. John Ford est bien placé pour le savoir et tout ça. Donc, moi, ça m'amuse. Et puis, ça sert pas à grand chose, comme dit Samuel, d'essayer de trouver où est la vérité. On sait que Eastwood, c'est un grand cinéphile. On sait que ça l'a toujours intéressé. On sait que Léon aussi. Et puis, moi, j'aime bien que parfois, on réinvente la légende et on sait plus ce qu'il faut imprimer, si c'est la réalité ou la légende. Ça fait partie aussi de la cinéphilie.
Alors, avec ce film, puis les suivants, sous la direction de Leon, Eastwood, il forge un peu, il a une stature, enfin en tout cas un personnage, le redresseur de tort solitaire, laconique, impassible et cool à la fois, enfin une sorte de drôle de mélange. Et puis, assez vite aussi, ça vous l'écrivez tous les deux, et Samuel Blumenfeld dans le livret, il crée sa maison de production en fait assez vite, dans les années 60, sa maison de production Malpasso.
Absolument. Il crée Malpasso, en fait, dès son retour à Hollywood. Donc, c'est quelqu'un... Et il l'a créé... D'abord, tous les comédiens, tous les acteurs, toutes les vedettes créaient leur société de production à l'époque. C'était une chose relativement récente, mais c'est quelque chose qui est très en vogue dans les années 60. Ce qui est différent avec Eastwood, c'est qu'il ne crée pas cette société de production uniquement pour gagner de l'argent, ou du moins concentrer plus de bénéfices sur sa personne. Il y a sans doute ça en tête, hein, bien évidemment, mais pas que ça. Il crée en fait une maison de production pour bâtir un mini-studio. Donc un mini-studio, donc, c'était en fait un certain nombre, une équipe fidèle qu'il va utiliser d'un film à l'autre. Et Eastwood, en grand connaisseur de l'histoire du cinéma, particulièrement de l'histoire du cinéma hollywoodien, a une grande nostalgie du système des studios, où il y avait des techniciens maison, des acteurs maison. Et en fait, Eastwood, dès le début de sa carrière de star et donc de réalisateur, tient à travailler avec, à s'entourer des mêmes personnes. Ça, c'est très particulier et particulièrement efficace. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gunsmoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one dough. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Voilà, Clint Eastwood par Gorillaz. Eastwood, écrivez-vous, Samuel Blumenfeld, il revitalise le western. Alors je pense notamment au western qu'il a réalisé, L'homme des hautes plaines ou José Wells hors la loi. Et le western, ça vous l'écrivez tous les deux, Samuel Blumenfeld, Eric Libio, c'est une forme peut-être la seule, enfin, estime-t-il, véritablement américaine, le western avec le jazz.
Oui, Eric, c'est le genre américain par excellence. Alors évidemment, si on exclut un peu le western spaghetti, ne serait-ce que parce que physiquement, le western est né là-bas. Voilà, il y avait des cow-boys aux États-Unis.
C'est les grands espaces.
C'est un peu une palissade de dire ça, mais c'est aussi ça. Même si aussi le film noir qui me paraît être une continuité du western, c'est le western revisité par la ville, le film noir. Donc c'est pas pour rien que Eastwood s'est intéressé aux deux genres. Et il s'intéresse au western parce que c'est l'histoire américaine, c'est l'héroïsation de la société américaine. Et s'il y a bien un seul thème, enfin s'il y a bien un thème auquel s'intéresse Eastwood, c'est comment est-ce qu'on fabrique des héros aujourd'hui, ou comment on les fabriquait alors et comment on les fabrique aujourd'hui. Tous ces films, c'est ça, c'est cette même interrogation, lui-même étant le héros de sa propre cinématographie. Donc il y a une espèce d'effet miroir un peu marrant à étudier. Mais le western, oui, le western, c'est le héros, c'est la construction d'un monde, c'est là où s'érige la morale, c'est là où les forces de pouvoir se mettent en place, c'est là où on discute du bien et du mal. On a toujours un peu dénigré le film de genre en France, et notamment le western. Pour moi, c'est le genre qui pose le plus de problèmes philosophiques. C'est-à-dire comment se construit une morale, une société, une civilisation, un pouvoir, etc. Et on a toujours l'impression que le western, c'est une histoire de cow-boy, et puis on tire dessus, puis il y a les Indiens et tout ça. Mais c'est véritablement un genre métaphysique. Alors je ne sais pas si Eastwood avait vraiment cette notion-là, mais encore une fois, le western était pour lui une façon de raconter des histoires et raconter l'histoire de son pays, chose qui l'a toujours intéressé.
Et Samuel, en quoi pensez-vous qu'il revitalise le western? Il ne le réinvente pas, mais il l'investit. C'est dans ce sens-là que vous utilisez ce terme?
Alors il l'investit. Je pense qu'il sera honnête de dire que il ne révolutionne pas le western comme Léon l'a fait, mais enfin, en même temps, je veux dire, si on demande ça au metteur en scène, plus rien n'est possible, parce qu'il n'y a qu'un Léon. Mais ce n'est pas quelqu'un qui révolutionne le genre. En revanche, et ça, c'est quelque chose qu'Eastwood ne calcule pas. Ça ne fait pas partie d'un plan de carrière, mais ça devient la réalité maintenant qu'il arrive au bout de sa carrière. Sa carrière n'est pas terminée, mais on va dire qu'elle est dans la dernière ligne droite. On parle d'un metteur en scène et d'un acteur qui a 90 ans. Mais au bout de cette carrière, en fait, il s'avère, depuis en fait la fin des années 70, qu'Eastwood est le dernier réalisateur américain à œuvrer dans le western. Et il n'y en aura sans doute pas d'autres. On fera toujours des westerns. Il y aura des pas dont on fera plus que dans d'autres. Mais il n'y aura plus de réalisateurs véritablement œuvrant dans ce genre-là. Et je pense que si Eastwood est le dernier réalisateur justement à avoir une œuvre westernienne, c'est parce qu'en fait il est issu de cette époque. C'est-à-dire qu'au sens où Eastwood est quelqu'un qui a connu la transhumance, c'est un enfant de la crise de 29, c'est quelqu'un qui justement a connu ce chemin, cette trajectoire vers l'ouest, là où les choses vont mieux. Et la trajectoire vers l'ouest, c'est celle du western. Donc ontologiquement, Eastwood est quelqu'un qui est emprunt des valeurs du western.
Alors vous accordez tous deux, je pense, pour dire ou pour écrire que José Wells hors la loi, c'est l'un de ses chefs-d'œuvre, peut-être méconnu, chef-d'œuvre secret, je ne sais plus lequel des deux emploie l'expression, c'est peut-être vous, Eric, Libio.
Disons que quand on demande comme ça à un cinéphile lambda, pardon, de cet oxymore, quel est le western de Eastwood qui retient, il va toujours dire impitoyable et assez peu José Wells, alors que pour moi, José Wells, non seulement c'est sans doute son premier très grand film, mais c'est un film pivot dans sa filmographie. C'est là, ce que je disais tout à l'heure, où il réinterroge la figure du héros et en le peignant un peu de noir. C'est un héros ombreux, c'est un hors-la-loi. Les méchants, au début, c'est des nordistes. Enfin, il y a comme ça une...
Ça se passe pendant la guerre de Sécession.
Voilà, il y a comme ça une façon de réinvestir l'histoire américaine, pas du tout dans l'aspect très patriotique comme pouvait le faire John Ford, mais toujours en y montrant les ombres, la face cachée. Et ça, c'est toujours ce qui a intéressé Eastwood, de toute manière, ces héros-là. Parce que lui, le héros, il le prend pas au sens étymologique du terme. C'est pas un dieu regardant les humains. Le héros, c'est quelqu'un d'assez... qui se révèle comme étant quelqu'un capable de faire quelque chose que d'autres ne feraient pas. Mais les héros, ça veut pas dire positif. Les héros, ça veut dire quelqu'un qui peut être paradoxalement un peu sombre, un peu noir, un peu taiseux, etc. Donc c'est vrai que José Wells regroupe tous ces thèmes en dehors du fait que c'est, d'un strict point de vue de la dramaturgie filmique, un film passionnant de suspense, avec tout ce qu'on veut, hein, du suspense, des histoires d'amour, une famille. Et puis je trouve que c'est ce film-là où on voit un Eastwood qui essaie d'être misanthrope et qui n'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est toute sa carrière est là. C'est-à-dire que c'est un type qui aimerait ne pas aimer les gens, mais à la fois ses personnages et à la fois lui. Enfin, j'extrapole un peu, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et il n'y arrive pas. Et en fait, il aime les gens, Eastwood. Alors que tous ses personnages montrent un type un peu acariâtre, un peu râleur, un peu pénible. Et il s'amuse avec cette image-là. Et dans José Wells, c'est un type qui aimerait être tout seul et il n'y arrive pas parce qu'il promène une grand-mère avec sa petite-fille, un chef indien, une squaw, un chien, un bâtard, un jeune tueur à gages, un jeune pistolero qui sait pas quoi faire de sa vie. Et il promène en fait tous les laissés-pour-compte de l'Amérique, quoi. Et c'est un peu le chef de file. Alors c'est une métaphore de la façon dont il va procéder dans le cinéma américain. C'est aussi pour ça que José Wells est un film très important dans sa carrière.
Moi, j'ajouterais, enfin, je suis entièrement d'accord avec Eric, j'ajouterais juste que, effectivement, José Wells est le premier grand film d'Eastwood. Donc, c'est un film de la fin des années 70. C'est-à-dire que c'est le film où on réalise que Eastwood n'est pas seulement un bon artisan, que c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un film où c'est le premier film où véritablement Eastwood à la fois revendique l'influence de Léon et s'en affranchit. C'est-à-dire qu'en fait, il explique à la fois de manière métaphorique qu'il vient d'un certain style, mais que désormais, il a trouvé son style et en trouvant son style, il sait qui il est. En l'occurrence, qui est-il ? Comme le souligne très justement Eric, c'est un marginal. L'histoire de Josie Howell sur la loi, c'est celle de la formation d'une communauté, mais une communauté de marginaux, des gens à part, des gens dont on ne veut pas. Et il se dit, ben moi je fais partie de ces gens-là. Donc effectivement, il y a une misanthropie d'Eastwood, mais c'est une misanthropie feinte. C'est en fait une misanthropie empreinte de générosité. Une autre chose, c'est que l'autre grand western d'Eastwood, c'est impitoyable, c'est indéniable. Enfin, je veux dire, son œuvre westernienne est dominée par ces deux films. Ce qui est intéressant dans Impitoyable, c'est que Eastwood, là, prend ses distances avec son autre mentor, Don Siegel. C'est qu'à la fois, il interroge son personnage, l'autre personnage emblématique qu'il incarne, à savoir l'inspecteur Harry. Un personnage qui n'a pas de problème métaphysique à tuer des gens, parce que c'est son devoir. Et justement, Impitoyable est un faux film noir. C'est un film noir déguisé en western. Et c'est justement un ancien tueur que l'on vient pêcher pour effectuer justice et une affaire de vengeance. Et donc c'est un ancien tueur qui soit d'un coup réalise que tuer, cela ne va pas de soi. Qu'il y a un prix à payer pour ce métier. Et donc, c'est typiquement justement l'héritage de Siegel qui est mis en perspective. Et c'est admirable, vraiment.
Alors, Eastwood, ou en tout cas son personnage, faux misanthrope, mais s'il y a bien un film qui a peut-être alimenté la légende et le malentendu, c'est évidemment l'inspecteur Harry, Don Siegel. On est en 1971.
Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement. Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance ? Vas-y, tu la tentes ou pas ?
Voilà, Eastwood en Harry Callahan, un flic de San Francisco, taiseux, justicier, qui n'a que mépris pour la hiérarchie, la justice, hein, qui libère les coupables. Là, il s'adresse à un cambrioleur voilà, il le fait un peu lanterner pour savoir s'il reste une balle. Alors c'est un film, l'inspecteur Harry, qui a longtemps, peut-être, je ne sais pas si encore, hein, maintenant on en trouve des gens pour le qualifier de film fasciste. Mais c'est
si, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je l'ai écrit c'est un copain journaliste, je ne citerai pas son nom, qui m'a dit que c'était. Il dit oui, le Eastwood, parfois, mais bon, il y a des choses que j'aime bien, mais Harry, non, c'est un film fasciste. Alors, ça m'a un peu tombé des yeux, quand même. Je lui ai dit, quand même, avec le temps. Non, c'est évidemment pas un film fasciste. Il faut replacer un peu dans le contexte. Hein, les années 70 à Hollywood, c'est l'arrivée du cinéma politique, c'est la fin des grands studios, comme l'a dit Samuel, hein, qui s'est fini à la fin des années 50, début des années 60. C'est Rio Bravo, le dernier grand film de studio. Et puis après, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et puis
le nouvel Hollywood.
Et puis le nouvel Hollywood un petit peu après. Mais les années 70, c'est vraiment c'est la guerre du Vietnam. Donc il y a énormément de films qui servent, où la guerre du Vietnam sert de métaphore à raconter, ou alors le cinéma sert de métaphore pour raconter la guerre du Vietnam, plus exactement. En tout cas, la position politique des États-Unis. Et il faut lire Dirty Harry à l'aune de ces films-là, à l'aune de Taxi Driver, à l'aune de Little Big Man, à l'aune de Willy Boy, voilà, tous ces grands films politiques. Donc, c'est effectivement un film politique, mais c'est évidemment pas un film fasciste. C'est un film. Alors, c'est pas un gauchiste non plus, il faut pas non plus s'en cacher, bien évidemment. C'est un libertarien. Siegel était un anard de droite, donc ils sont plutôt dans cette mouvance-là. Mais c'est quelqu'un qui remet en cause. Effectivement, la hiérarchie de la police, les carences de la police, etc., sans prôner la légitime défense. À un moment donné, c'est du cinéma, quoi. Faut arrêter. À un moment donné, c'est du cinéma. Quand Dirty Harry flingue un salopard, en tant que spectateur, ça me fait plaisir. Enfin, en tant que juste le spectateur, il y a du cinéma, il y a de la jouissance aussi dans ce genre de truc. Il faut pas tout le temps prendre le cinéma comme c'est pas des frères Dardenne quoi, il y a pas un effet de réel, il y a un plaisir du cinéma.
C'est pas les mêmes messages, c'est ça que vous voulez dire.
Bah si, ça véhicule des choses, mais c'est pas du naturalisme, c'est pas du, il y a aussi un plaisir à être dans une espèce d'imaginaire qui fait que voilà, et puis il faut pas être dupe des choses, mais Dirty Harry remet en cause, et puis à la fin de Dirty Harry, il est tellement dégoûté par la police qui démissionne, etc. Donc là encore, on est dans l'interrogation du héros, qu'est-ce qu'un flic peut faire aujourd'hui dans les années 70, etc., etc. Faut un peu, et puis finalement, je regardais, moi j'ai relu quand j'ai écrit le bouquin ce qu'on disait sur Dirty Harry à l'époque. Il y a pas tant que ça que la presse française, c'est beaucoup la presse américaine et Pauline Kiel, mais la presse française a relativement été assez honnête avec le film. Même Télérama, que je croyais qu'il lui avait tombé dessus, finalement il n'était pas si méchant que ça. Combat, par exemple, qui est pas réputé pour être un journal de droite, a défendu Dirty Harry. Donc arrêtons de dire que c'est un film fasciste, quoi. Faut, à un moment donné, ça va.
Samuel Blumenfeld.
Moi, je pense d'abord, il y a un contexte historique. C'est-à-dire que c'est un film qu'on ne peut pas comprendre sans son contexte historique. Donc, le contexte historique, c'est bien évidemment la guerre du Vietnam, comme l'a souligné Eric. Et il est directement fait allusion, indirectement fait allusion à la guerre du Vietnam dans une scène en hélicoptère, dans le film, où on comprend bien que ça rappelle les hélicoptères que les téléspectateurs américains voyaient aux informations télévisées lorsqu'on leur parlait des champs de guerre au Vietnam. Donc, il y a le contexte de la guerre du Vietnam. Il y a un contexte sécuritaire extrêmement tendu dans les zones urbaines aux États-Unis à l'époque, qui fait énormément débat, sur lequel Richard Nixon va asseoir en partie sa réélection. Il y a aussi, élément très important, le fameux tueur du Zodiac qui terrorise tout le nord de la Californie. Donc faut comprendre quand même que ce film-là ne tombe pas du ciel. Il faut également aussi accepter de comprendre que la politique des auteurs n'est pas toujours opérante sur tous les films. Et donc, que le cinéma étant un médium de collaboration, eh bien, il y a plusieurs sensibilités qui se croisent sur l'inspecteur Harry. Il y a la sensibilité de Don Siegel, il y a celle de Clint Eastwood, il y a celle du scénariste John Milius qui est obsédé par les armes à feu, et on l'entend, et on perçoit bien cette obsession.
Il y a une fascination pour le Magnum.
Et le scénariste John Milius n'est pas tout à fait quelqu'un d'extrême gauche. Donc il y a différentes sensibilités, mais sur l'inspecteur Harry, Eastwood n'est pas Dieu tout puissant. Ce n'est pas lui qui contrôle
mais,
tout.
Mais c'est à partir de là qu'il y a une sorte de début du malentendu que lui ne dissipe pas forcément. Mais quand on voit ses films, on voit qu'ils sont beaucoup plus ambigus, les films d'Eastwood. Notamment, je pense par exemple à American Sniper, 2014, qui a pu être si vite vu comme un film sur le patriotisme américain, ce qui n'est pas du tout.
Ça me fait penser à la chanson de Springsteen, Born in USA, où tout le monde s'est complètement planté. Je pense qu'American Sniper aussi. À un moment donné, comme il dit Samuel, on ne peut pas regarder des films en faisant fi de ce qui s'est passé avant, du contexte historique et de ce qui s'est passé avant. Eastwood, comme je disais tout à l'heure, réinterroge la place du héros américain. American Sniper est un film sur les traumatismes, les désillusions d'un pays bouffé par la guerre d'Irak et qui ne sait plus quoi faire de ses héros. American Sniper, l'histoire d'un mec qui est quand même tué par un vétéran du militaire. Enfin, c'était pas un Irakien, mais c'était pas en Irak, mais c'est un ex-militaire qui a subi un traumatisme en Haïti. Et qui, c'est l'ennemi intérieur qui, à un moment donné, tue ce héros-là. Et c'est où est-ce qu'on voit un nationalisme là-dedans? Je me demande, alors que ils sont pas ambigus, moi, je trouve, que les films de Eastwood, pas du tout. Je trouve qu'ils sont très clairs si on veut bien un peu observer la place qu'a Eastwood dans le cinéma américain, les idées qu'il défend, le message qu'il peut dire, parce qu'il en dit. Il dit à un moment donné, moi, je raconte la médaille et son revers. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le revers que la médaille. Quand il fait ce diptyque absolument sublime de Mémoire de nos pères et de Lettre d'Iwo Jima, on voit bien que ce qui l'intéresse plus, c'est Lettre d'Iwo Jima plus que Mémoire de nos pères. C'est comment est-ce que, dans une guerre entre les États-Unis et le Japon, comment est-ce que l'armée japonaise réussit à transcender la mort certaine que tous ces soldats vont subir. Lui, ce qui intéresse Eastwood, c'est comment est-ce qu'on peut aller savoir qu'on va jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice, où est-ce que et l'héroïsme, où est-ce que et la défense d'un pays. Et pour lui, c'est la face cachée de de l'héroïsme américain tel qu'on pourrait le décrire. Et ce qui l'intéresse encore une fois, alors, c'est le médaille, le revers et souvent aussi la tranche, parce qu'il est toujours un petit peu entre les deux. Pour lui, la pièce, elle tombe toujours sur la tranche, qui est quand même assez difficile, mais pour lui, enfin, j'ai l'impression que métaphoriquement, il arrive systématiquement à faire tomber la médaille sur la tranche.
Moi, je dirais que, bon, d'abord, Eastwood est un cinéaste du gris, comme tout grand cinéaste.
Du clair obscur dans tous les
voilà.
films, bien sûr.
Donc, bien évidemment, comme si étant un cinéaste du gris et pas un cinéaste du blanc et du noir, bah, c'est compliqué. Ah oui. Et tant mieux. Ensuite, sur la question spécifique de la guerre, faut être très clair là, parce que pour le coup, Eastwood l'a toujours été. Que ce soit dans ce qu'il développe à l'écran et dans ses déclarations, dans ses déclarations à la presse, sur les questions des conflits vietnamiens, coréens, vietnamiens, irakiens, Eastwood a toujours été pacifique. Il s'est toujours méfié des interventions armées.
Ce n'est pas un va-t-en-guerre, effectivement.
C'est absolument pas un va-t-en-guerre. American Sniper n'est en aucune façon un film de va-t-en-guerre. Je veux dire, il faut savoir regarder un film. Ce film n'est pas en faveur de la guerre en Irak. Et sur la guerre en Irak, Eastwood a toujours été très clair. Il pensait que cette intervention était malvenue.
Il se méfiait d'ailleurs de Bush Junior, qui était le président qui a commencé la
Absolument.
Guerre.
Absolument.
Il était très, très méfiant et se demandait, et se disait, mais on donne pas un flingue à n'importe qui peut appuyer sur la gâchette.
Venant de lui, effectivement, venant de lui, ça vaut de l'or.
Tout à fait. Mais quand on prend un film comme Mémoire de nos pères, qu'un des grand film d'Eastwood. C'est un film qui est sur un conflit où, là, pour le coup, ce conflit est blanc et noir.
C'est, au sens c'est où la Seconde Guerre mondiale et c'est la bataille du Pacifique.
Clairement, oui. Je veux dire, il s'agit de défaire les Japonais. Ça a véritablement un sens, comme il s'agit de défaire les Allemands, je veux dire, en Europe. Mais même dans le cadre d'un film pareil, ce qu'Eastwood dénonce, en fait, c'est ce qu'une superstructure, c'est en l'occurrence l'État, et là, Eastwood parle en libertarien, donc quelqu'un qui n'a pas confiance
politique.
En l'État, voilà. C'est la manière dont on récupère dont l'État récupère des gamins et dilapide leur vie. Et ça, Eastwood est toujours extrêmement méfiant. Décidément, c'est véritablement un cinéaste du gris.
Alors, on a parlé des westerns, évidemment, des films noirs, des films de guerre d'Eastwood, mais il s'est illustré dans d'autres genres aussi très différents. Enfin, évidemment, il y a les mélodrames. Je pense que
Film où on pleure,
oui.
Là.
Vous... Sur la route de Madison.
À part la science-fiction, et encore, peut-être qu'on pourrait mettre Space Cowboy dans la science-fiction, mais bien que ce ne soit pas tout à fait ça. Mais il a
même
effectivement,
la comédie, donc.
Il a effectivement abordé absolument tous les genres. Bon, le film d'horreur, non, sans doute pas, mais... Et le mélodrame sur la route de Madison, qui moi est un film qui me fait pleurer même au bout de l'avoir vu 10 fois. À la fin, je crie tout seul pour implorer Meryl Streep d'ouvrir la portière et d'aller rejoindre Robert Kincaid qui l'attend sous la pluie, ce pauvre qui va prendre froid.
Donc ça marche à chaque fois aussi.
Et voilà, c'est là où on voit que c'est un cinéaste qui sait filmer les sentiments, qui sait filmer le gris, comme dit Samuel, parce que filmer un mélodrame, c'est vachement dur, hein, de réussir un mélodrame est fait a priori pour si ce n'est pour pleurer, en tout cas pour émouvoir. Et c'est pas si facile. C'est plus facile de balancer des coups de feu dans la rue et de filmer une course-poursuite. Hein. Ça c'est certain. Le mélodrame demande plus de subtilité, plus de retenue, plus de pudeur. Et dans Sur la route de Madison, il fait preuve d'une extrême pudeur, en tout cas avec ces deux personnages-là. Je trouve que c'est un film bouleversant sur la fragilité de l'instant. Quoi. C'est un film... Et Eastwood a toujours été intéressé par filmer des moments comme ça. Pour lui, l'instant, c'est quelque chose... L'instant, c'est là où on révèle les individus, c'est dans des moments... comme ça, extrêmement, dans des moments de l'instant.
Presque.
Un peu évanescent. Et ce film-là raconte tout de la nature humaine. Comment est-ce qu'on peut être emporté par un sentiment amoureux et puis en même temps bouffé par une espèce de raison qui fait qu'on va rester dans la famille, auprès des siens, etc. Il y a cet antagonisme entre la pulsion qu'on peut avoir et la raison qui parfois nous fait aller contre cette pulsion.
Ce qui était frappant, c'est que le deuxième film d'Eastwood, qui s'appelle Breezy,
magnifique film,
contenait en germe, en fait, annonçait, en fait, sur la route de Madison. Breezy, donc, c'est un film qui passe complètement inaperçu. C'est l'histoire d'un cadre incarné par William Holden, un cadre pratiquement à la retraite, donc quelqu'un de très âgé, qui tombe amoureux d'une hippie. Donc, si vous voulez, vous avez un homme de 60 ans qui vit une histoire d'amour avec une fille qui en a 20. C'est un film extrêmement singulier pour l'époque, et on va dire extrêmement singulier en regard de l'image un peu caricaturale qu'on peut se faire d'Eastwood. Brizzi est incontestablement un film secret. Mais comme tout ce qui est secret, il révèle peut-être la part la plus authentique d'Eastwood. Et quand on voit Sur la route de Madison, qui est un film bouleversant, extraordinaire, où on se demande mais d'où vient ce film ? En fait, il vient bien de quelque part. On réalise aussi une autre chose. C'est que Sur la route de Madison retrouve véritablement la magie, le savoir-faire, l'authenticité des grands mélodrames des années 50, et je pense en particulier à Douglas Sirk. Avec cette idée, en fait, que l'ordre social finit par avoir raison des désirs des individus, qu'il y a quelque chose de plus puissant, en fait, que la volonté d'aimer de certains hommes et de certaines femmes. Et cette magie-là, en fait, ce savoir-faire que trouve miraculeusement Eastwood dans Sur la route de Madison. Et pourquoi le retrouve-t-il, en fait ? Mon explication, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'en fait, Eastwood est tellement marqué par l'histoire du cinéma classique hollywoodien, il porte tellement ça en lui, en fait, qu'il n'a pas de mal, entre guillemets, à retrouver cette magie-là lorsqu'il s'attaque à un genre pour lequel il n'était soi-disant a priori pas fait.
Oui, donc effectivement, Eastwood, comme vous l'écrivez, Samuel Blumenfeld, il fait vraiment la jonction entre l'âge d'or, enfin le Hollywood des studios et puis le Hollywood moderne. On n'a pas parlé non plus de ses films musicaux, on pourrait en parler, parce que la musique, c'est aussi une de ses grandes passions. On sait qu'il est pianiste, je crois qu'on le voit d'ailleurs dans certains de ses films,
en tout cas,
le personnage au piano.
Il a composé certains des thèmes, Gran Torino, parce que je situe là, parce que c'est sans doute un des films les plus connus par les spectateurs, et puis il a surtout filmé Bird de Charlie Parker. Le jazz, c'est venait de c'est sa mère qui écoutait beaucoup de jazz, Fats Waller notamment. Eastwood a deux grandes figures musicales, c'est la country et le jazz. La country, ben, on le voit dans ça y est, son nom m'échappe, Honky Tonk Man, merci. Et puis le jazz dans Bird. Et Charlie Parker, qui était à la fois un inventeur de forme, c'est lui quand même lui qui a réinventé le jazz, en tout cas inventé le bebop, et puis un artiste torturé, sombre, comme tous les grands artistes et comme tous les génies. Et ce qui plaisait effectivement à Eastwood, c'est non seulement raconter le jazz, mais aussi filmer un artiste dans toutes ses pulsions mortifères, dans ses drames, et voilà. Et comment est-ce qu'une vie se mêle à l'artistique, qui est d'ailleurs aussi peut-être en beaucoup moins dramatique, mais la vie de Eastwood, qui s'est systématiquement mêlée entre l'artistique et la vie personnelle, voir les problèmes qu'il y avait avec Sandra Locke, avec sa comédienne, tout se mêlait à un moment donné. Mais c'est aussi la mythologie, on en revient au tout début, la mythologie c'est ça, c'est un grand brassage entre la vie réelle, l'imaginaire, le cinéma, la passion, les pulsions, ce que disait très bien Samuel, tout le gris parfois et la société qui veut nous imposer des choses et des pulsions qu'on voudrait, ou les désirs qu'on voudrait bien mettre en avant, et parfois on n'y est pas. Voilà tout ce que raconte Eastwood.
Oui, d'ailleurs, dans Honky Tonk Man, il fait jouer son propre fils, Kyle Eastwood, qui est devenu, lui, bassiste, contrebassiste de jazz, et effectivement compositeur aussi de la musique de ses films. C'est d'ailleurs sur ce titre de Honky Tonk Man, Eastwood qui chante, que s'achève notre émission spéciale consacrée à Clint Eastwood. Je rappelle la parution d'un coffret exceptionnel, vraiment l'intégrale des films d'Eastwood chez Warner, dont vous avez signé le livret, Samuel Blumenfeld, mais je signale aussi que vous avez signé un livre d'entretien avec Pierre Rissian, qui a été préfacé par Clint Eastwood, puisqu'ils étaient très amis. Je rappelle aussi le titre de votre livre, Eric Libio, c'est Clint et moi, paru chez Jean-Claude Lattès. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard et Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Claude Lelouch, une autre légende, cette fois-ci du cinéma français. D'ici là, bonne semaine à tous. Every word is at my command. My guitar comes alive in my hand when I sing about you. When I sing about you, every note seems to be right on key. Oh, it all sounds so right to me when I sing about you. Oh, it all sounds so right to me when
when I sing about you.